France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère-Dancausse.
Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron décrète le confinement. Pour ralentir le coronavirus apparu en France fin janvier, les Français doivent donc rester chez eux, renoncer aux réunions amicales ou familiales, limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Toutes les activités économiques non essentielles sont stoppées, le télétravail vivement recommandé. Tous les lieux publics non indispensables ont fermé la veille, tout comme les crèches et les établissements scolaires. L'activité physique ou la promenade sont permises, mais pour une heure au plus et dans un rayon d'un kilomètre. Ce confinement sera prolongé jusqu'au 15 avril, puis jusqu'au 11 mai. Et en tout dans le monde, ce sont 3 milliards d'êtres humains qui seront confinés chez eux, soit la moitié de l'humanité. Cet événement sans précédent a bien sûr été vécu de manière différente, selon les conditions socio-économiques, la structure familiale, professionnelle, mais aussi l'âge, le genre et la santé mentale de chacun. Que sait-on aujourd'hui de l'impact de ce confinement sur la population? Quelles en ont été les conséquences matérielles et relationnelles? Et du déconfinement, on en parle avec Patrick Perretti-Vatel. Patrick Perretti-Vatel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du risque et de la santé à l'INSERM, coordinateur du projet ANR Coconel et Slavako, ça vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, et auteur de Huis clos avec un virus, comment les Français ont vécu le premier confinement aux éditions du Septentrion. Avant d'évoquer ce livre, une question, c'est vraiment sans précédent, parce que je viens de dire sans précédent, mais est-ce que ça l'est vraiment ce que nous avons vécu? Parce que c'est pas le premier virus contagieux comme ça qui se propage.
Ah oui, mais alors, en France, par le passé, on a pu confiner des villes entières, mais c'était au Moyen-Âge, avec les épidémies de peste. Hein. À l'époque, les gens ne devaient pas sortir de chez eux et les officiers de santé passaient chaque jour dans les rues pour demander à haute voix aux survivants de se compter. À l'époque contemporaine, en 2003, en France, on a mis en quarantaine quelques centaines de personnes qui étaient suspectées d'être infectées, déjà à l'époque par un coronavirus venu de Chine. En 2006, pour lutter contre la grippe aviaire, on a bien eu recours au confinement, mais c'était pour les volailles. Et enfin, suite à l'épisode de la grippe H1N1 en 2009, les autorités avaient conçu ce qu'ils avaient appelé un plan pandémie grippale qui prévoyait de recourir au confinement, même si ce n'était pas ce mot qui était utilisé. Mais ce plan était resté dans les tiroirs, ce qui veut dire qu'effectivement, en mars 2020, on n'avait aucune expérience récente sur laquelle s'appuyer. Et on n'avait donc aucune idée de ce qui allait se passer.
Alors justement, donc votre livre vise à décrire et comprendre comment les Français ont vécu ce confinement, et ce à partir de ce projet de recherche Coconel. C'est quoi ce projet de recherche ?
Alors, il se trouve que dès le début de la crise, l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, a financé des projets de recherche qui portaient sur la crise sanitaire, dont le nôtre, qui s'appelait effectivement Coconel. C'était pour coronavirus et confinement, enquête longitudinale. L'idée, c'était de réaliser des enquêtes par sondage auprès de la population adulte, chaque semaine, pour suivre dans le temps les conséquences du confinement sur la vie quotidienne des Français. Alors, évidemment, quand nous avons commencé nos enquêtes fin mars 2020, nous ne savions pas encore combien de temps ça allait durer. Et au final, on a fait 9 enquêtes, 8 pendant le confinement et une après, au mois de juin 2020, pour effectivement voir comment ça se passait, après un mois de déconfinement. Et je dis nous, en fait, puisque nous étions un collectif d'une vingtaine de chercheurs, dont des sociologues, des économistes, des psychologues et des médecins.
Alors, évidemment, les inégalités apparaissent dans ces enquêtes, avant tout les inégalités sociales de logement. Il faut dire que beaucoup de confinés se sont retrouvés dans des logements sans extérieur ou dans des logements qui sont surpeuplés.
Oui, sachant que les conditions de logement, ça inclut le type d'habitat, maison individuelle ou habitat collectif, avec ou sans extérieur, la superficie, mais aussi les équipements disponibles dans le logement, électroménager, sanitaire, et enfin sa localisation. Et ce sont des conditions qui sont très inégalitaires en France. Et les conséquences de ces inégalités de logement ont été mécaniquement amplifiées par le confinement, puisque les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux. En l'occurrence, pendant le premier confinement, 16% des adultes ont été confinés dans un logement sans accès à un extérieur privatif. Donc, ils n'avaient ni jardin, ni cour, ni balcon. Et ça fait au total plus de 10 millions de personnes, enfants compris. Et de même, un adulte sur 10 a passé le confinement dans un logement surpeuplé. Sachant que ces deux situations avaient tendance à se cumuler avec de fortes disparités sociales. Par exemple, le surpeuplement du logement n'a concerné que 3% des ménages ayant des revenus aisés, contre plus de la moitié des ménages aux revenus modestes. Et il faut aussi souligner que ces fortes disparités étaient aussi présentes entre milieu urbain et milieu rural.
Oui.
Sachant que, par exemple, en milieu périurbain, ce qu'on appelle les banlieues dortoirs, ça correspond justement à un habitat qui est conçu pour que les habitants y passent leur nuit, mais pas leur journée.
Est-ce que le sentiment de solitude, d'isolement, a été souvent cité? C'était toujours mentionné par ceux qui ont vécu seuls, notamment, ce confinement ou pas?
Alors, en l'occurrence, pendant le premier confinement, effectivement, on a eu 38% des adultes qui se sont sentis isolés dans leur logement ou dans leur quartier, contre 17% en temps normal. Alors, c'était un sentiment de solitude qui était lui aussi socialement différencié, mais qui ne doit pas être confondu avec le fait de vivre seul. D'ailleurs, il est corrélé à la promiscuité ressentie. Donc la promiscuité ressentie, c'est quand on a eu au contraire l'impression qu'on était trop nombreux dans le logement et qu'on se marchait un petit peu dessus. Et donc en fait, les deux sont liés. Donc paradoxalement, on peut très bien à la fois avoir le sentiment de vivre les uns sous les autres et se sentir seul. Alors ça peut sembler paradoxal, mais en fait, ça, on peut aussi le comprendre parce que au cours d'une journée ordinaire, nous ne jouons pas le même rôle, nous ne nous comportons pas de la même manière selon que nous sommes avec nos enfants, nos parents, nos collègues ou nos amis. Et ce sont différentes sphères sociales qui sont relativement étanches entre elles. Et généralement, ça nous fait du bien de pouvoir passer de l'une à l'autre et de ne pas jouer le même rôle social toute la journée. Or, avec le confinement, en fait, on ne pouvait plus comme ça circuler d'une sphère à l'autre. Et finalement, le confinement nous enferme dans un seul rôle et nous prive des autres rôles. Et c'est ce qui peut susciter un sentiment d'isolement, même quand on est dans un logement surpeuplé.
Alors, il faut rappeler que les Français n'ont pas été passifs vis-à-vis de ce confinement. Il y en a beaucoup qui ont choisi où le vivre et qui se sont déplacés. D'ailleurs, ça a suscité suffisamment de polémiques. C'était quand même les plus aisés qui ont choisi ce mode de confinement ou pas ?
Alors effectivement, pour affronter le confinement, certains Français se sont déplacés ou regroupés. Cette recomposition partielle des ménages, elle a affecté au total la situation de plus de 9 millions de personnes, tous âges confondus. Alors effectivement, à l'époque, on a beaucoup parlé des Parisiens aisés partis s'installer dans leur résidence secondaire en province, mais c'était une minorité. Il y a surtout eu beaucoup d'étudiants qui sont rentrés chez leurs parents, et aussi des familles qui ont accueilli un parent âgé dont ils ne voulaient pas qu'il reste seul. Et pour le coup, cette recomposition, elle a aussi entraîné des difficultés et nourri le sentiment de promiscuité, parce qu'il faut se souvenir que, vous l'avez dit tout à l'heure, au départ, le confinement, il devait durer 15 jours avant d'être prolongé à deux reprises. Donc les gens qui se sont regroupés pour 15 jours, en fait, ils n'avaient pas forcément prévu de passer deux mois ensemble.
Et qu'est-ce qu'on sait des baisses de revenus, conséquences du confinement ?
Alors pendant le premier confinement, les autorités, et même après, les autorités avaient mis en place un espèce de filet de sécurité pour protéger les revenus des Français. Les fonctionnaires ont continué à être payés. Le recours massif au chômage partiel a protégé les salariés du secteur privé, du moins ceux qui avaient un contrat à durée indéterminée. Il y a aussi des aides pour les indépendants. Mais au final, ce dispositif était beaucoup moins efficace pour l'emploi précaire. Et dans nos enquêtes, effectivement, on a un adulte sur trois qui a déclaré une baisse des revenus de son ménage et un sur cinq qui a rapporté que son ménage connaissait des difficultés financières pendant le confinement à cause de cette baisse de revenus. Et ces proportions, effectivement, étaient plus élevées lorsque le ménage avait des revenus modestes au départ ou lorsque le chef de ménage avait un emploi précaire. Par ailleurs, on a aussi observé un cumul des difficultés puisque les ménages concernés par les baisses de revenus étaient aussi les plus mal logés.
Vous parliez des jeunes qui sont partis chez leurs parents. Il y a des étudiants qui sont restés là où ils étaient. On sait que les étudiants, il y en a beaucoup qui ont des difficultés financières. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez pu constater sur ces étudiants ?
Alors effectivement, ce cumul de difficultés financières et de mauvaises conditions de logement, il concernait tout particulièrement les jeunes adultes qu'on appelle décohabitants, c'est-à-dire qu'ils n'habitent plus chez eux, plus chez leurs parents, qu'ils soient actifs ou qu'ils soient étudiants. Sachant que pour les étudiants, nous avons réalisé...
Décohabitants, c'est qu'ils n'habitent plus chez leurs parents, c'est ça ?
Une personne décohabitante, oui, c'est parce qu'elle ne cohabite plus avec
d'accord,
ses parents.
D'accord, ok, d'accord.
On dit un décohabitant.
D'accord, merci.
Désolé pour ce terme un petit peu barbare. En tout cas, pour les étudiants, effectivement, nous avons réalisé des entretiens approfondis complémentaires qui montrent aussi qu'ils étaient particulièrement exposés à une autre difficulté, en l'occurrence la perte des rythmes sociaux collectifs et des repères temporels. C'est-à-dire que très souvent, en fait, ils ne savaient plus à quelle heure se coucher, à quelle heure manger, même quel jour de la semaine on était. Donc il y avait aussi ces difficultés-là supplémentaires pour les étudiants.
Le télétravail, on sait qu'il a été très largement suggéré. Évidemment, il n'était pas accessible à tous. C'est difficile pour des ouvriers, notamment, de télétravailler. Ça a augmenté encore les inégalités ?
Oui, effectivement, puisqu'on a 60% environ des cadres qui ont pu télétravailler, contre moins d'un ouvrier sur 10 et un employé sur 7. Ça veut dire que les employés et surtout les ouvriers ont dû plus souvent soit stopper leur activité, soit continuent à l'extérieur de leur domicile, donc avec les risques d'exposition au virus que ça impliquait, alors que le télétravail permettait aux cadres de préserver leurs revenus et leurs liens sociaux au travail sans s'exposer au virus. Il y a aussi une autre inégalité, mais de genre cette fois-ci, qu'il faut souligner, puisque les femmes ont pu télétravailler aussi souvent que les hommes, mais dans de moins bonnes conditions. D'abord parce qu'elles s'occupaient aussi des enfants, et ensuite parce qu'elles disposaient moins souvent d'une pièce dédiée ou s'isoler pour télétravailler. Et par ailleurs, bien sûr, le télétravail, ça a aussi des inconvénients. En référence à ce que je disais tout à l'heure sur la diversité et l'étanchéité des sphères sociales que nous traversons au quotidien, avec le télétravail, c'est la sphère professionnelle et la sphère domestique qui se télescopent. Et quand vous faites une réunion professionnelle dans votre cuisine, avec vos enfants dans la pièce et vos collègues à l'écran, vous devez tenir deux rôles à la fois. Et d'ailleurs, le télétravail, ça aussi contribue à dégrader les relations entre parents et enfants.
Voilà, on va justement parler parce que ce confinement n'a pas été forcément simple pour les couples, pour les familles dont le mode de vie a été complètement chamboulé. On en parle tout de suite. Carnet de santé consacré aujourd'hui au confinement que nous avons vécu il y a bientôt 5 ans et à ses conséquences matérielles et relationnelles. Pour en parler, donc, Patrick Perretti-Vatel, sociologue du risque et de la santé à l'INSERM. On l'a dit, hein, les écoles, les collèges, les crèches avaient fermé. Les parents se sont retrouvés 24 heures sur 24 avec leurs enfants, obligés de surcroît à assurer l'école à la maison. Est-ce qu'on a constaté une réorganisation des tâches des hommes et des femmes? Je dis ça aussi bien pour les tâches domestiques que le rôle auprès des enfants.
Alors effectivement, le partage des tâches entre hommes et femmes s'est modifié, dans le sens où les hommes se sont davantage impliqués dans les activités extérieures, en l'occurrence aller travailler pour ceux qui avaient un métier essentiel, mais aussi faire les courses. C'est-à-dire que les hommes ont beaucoup plus fait les courses pendant le premier confinement qu'auparavant.
Et le ménage?
Sachant que pour le coup... Pas le ménage, faire les courses, ça permettait aussi de laisser la femme et l'enfant à la maison, et c'était aussi une occasion de sortir de chez soi, et c'était important de pouvoir sortir de chez soi. S'agissant des enfants et de la fameuse continuité pédagogique, ce sont principalement les mères de famille qui s'en sont chargées, hein. Il y a des données de l'INSEE qui montrent que un peu moins d'une mère sur deux a passé plus de 6 heures par jour à s'occuper des enfants contre moins d'un père sur 3.
D'accord. Et les liens parents-enfants se sont trouvés plutôt renforcés ou au contraire ça a distendu certains liens?
Alors là encore, évidemment, ça dépend des niveaux socio-économiques et puis ça dépend du fait que les parents télétravaillent ou pas. Dans nos enquêtes, un parent sur 10 a rapporté une dégradation de ses relations avec ses enfants pendant le confinement. Les pères aussi souvent que les mères. Cette détérioration a été plus fréquente dans les ménages qui se sont agrandis pendant cette période. Donc vous avez le cas typique de l'étudiant décohabitant qui revient chez ses parents, mais vous avez aussi l'enfant qui doit céder sa chambre à un parent âgé qui a été accueilli, non pas pour 15 jours, mais pour 2 mois. Alors, sachant que, je précise quand même que nous avons seulement interrogé les adultes, donc nous n'avons pas le point de vue des enfants dans cette enquête.
On imagine bien que selon l'origine sociale, l'aide que les parents pouvaient apporter à leurs enfants au niveau de la scolarité n'était pas égale. Est-ce qu'on a constaté, dans les mois du déconfinement ou l'année suivante, une différence ensuite de niveau scolaire?
Alors, effectivement, la continuité pédagogique a contribué à augmenter les inégalités scolaires liées à l'origine sociale. D'ailleurs, sans même parler de confinement, il y a des spécialistes de l'éducation qui ont fait des études qui montrent que chaque année, les élèves perdent une partie de leurs acquis pendant les vacances d'été, et que cette perte est moindre lorsque les parents sont plus diplômés. Alors, pour ces effets, effectivement, la difficulté aussi, c'est qu'il faut avoir du recul. Il y a des recherches qui ont été menées en 2022 dans plusieurs pays développés, dont la France, et qui ont estimé que pour l'année 2020, il y a un déficit d'apprentissage, donc estimé à peu près à un tiers d'une année scolaire, sachant que 2 ans après, ce déficit ne s'était pas résorbé et n'avait pas non plus augmenté, donc on avait perdu un tiers d'année scolaire. Et ce déficit était plus marqué en mathématiques qu'en lecture, d'ailleurs.
Les relations de couple, évidemment, se retrouver 24 heures sur 24 ensemble, ça change la donne. Comment ça a été analysé?
Alors, parmi les femmes confinées avec un conjoint, on en a une sur 10 qui a rapporté une dégradation de leur relation de couple, avec ici encore de fortes disparités socio-économiques. Alors, il s'agit typiquement de jeunes femmes de milieux populaires qui sont à la fois victimes de leur position subalterne sur le marché du travail, où elles ont un moins bon emploi que leurs compagnons, et dans l'espace domestique, où effectivement, elles ont des tâches qui leur sont assignées dans le cadre d'une répartition asymétrique des tâches domestiques. Et donc, souvent, elles ont dû arrêter de travailler pour que leur conjoint, lui, puisse continuer. Et elles ont été contraintes de se circonscrire à la seule sphère domestique, et donc aux enfants en particulier pour la continuité pédagogique. Et par ailleurs, il faut quand même se dire que quand on parle de couple, il faut rappeler que la mise en couple, c'est un processus qui peut prendre du temps, de même que la rupture d'ailleurs, de sorte que le confinement, il a aussi séparé des couples qui ne cohabitaient pas encore et qui étaient sur le point de s'installer ensemble, et il a aussi forcé des couples séparés à continuer à cohabiter.
On imagine bien quand des violences conjugales existaient avant ce confinement, elles ont pu être majorées. Est-ce qu'on a constaté cela? Est-ce qu'il y a des déclarations là-dessus? Est-ce qu'il y a par exemple plus de plaintes qui ont été émises ou pas?
Alors en l'occurrence, enquêter sur les violences domestiques, ça suppose de prendre beaucoup de précautions méthodologiques, en particulier pour ne pas mettre en danger les femmes qu'on interroge, surtout si on les interroge dans leur logement où elles se trouvent avec leur conjoint. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas les moyens méthodologiques de le faire. Mais par contre, il y a d'autres enquêtes spécifiques qui ont été faites. Notamment, il y a un sondage qui a été réalisé pour la Fédération nationale Solidarité Femmes qui montre que 9% des femmes en couple ont été victimes de violences conjugales pendant le premier confinement.
9%?
Et le point important, en fait, c'est que pour le tiers de ces victimes, ces violences ont été initiées lors de ce confinement. C'est-à-dire qu'il est apparu comme un facteur déclenchant alors qu'il n'y avait pas eu de violences auparavant.
Les liens sociaux, comment les Français, quelle que soit la façon dont ils ont vécu ce confinement, que ce soit en couple, en famille, seul, en colocation, comment ils ont maintenu ça? Déjà, est-ce que beaucoup sortaient de chez eux dans les périodes autorisées ou certains n'en profitaient pas du tout?
Alors, là encore, il y a une grande disparité suivant les âges, et puis suivant les zones aussi, parce que sortir de chez soi pendant le confinement, c'est pas la même chose quand on vit en Lozère ou quand on vit dans un arrondissement parisien. Alors, il y a aussi une grande diversité des liens sociaux. Alors, on pense tout de suite à ceux qu'on peut avoir au travail ou à l'école, ou ceux qu'on cultive avec les personnes avec lesquelles on vit, mais il y a aussi d'autres liens sociaux qui sont importants, même s'ils sont plus faibles. Par exemple, lorsque vous sortez de chez vous, dans votre quartier, vous allez croiser souvent les mêmes personnes. De fait, elles vous deviennent familières et vous allez les saluer même si elles restent anonymes. Mmh. Et ces contacts qui sont brefs et généralement fortuits et anonymes, ils contribuent à susciter aussi un sentiment d'appartenance, de confiance et de sécurité. Donc voilà, il y a différentes formes de liens sociaux et effectivement, sortir de chez soi et juste croiser des gens dans la rue, ça peut aussi contribuer à entretenir ce lien et un sentiment de sécurité. Alors bien sûr, pour cultiver ces contacts, il faut sortir de chez soi et il faut pas non plus être seul dans la rue quand on sort. Sachant que pendant le confinement, effectivement, on avait environ la moitié des adultes qui déclaraient ne pas être sortis la veille. Et le plus souvent, les motifs de sortie, c'était faire des courses ou un rendez-vous médical ou sortir pour une promenade. Et au fil des semaines, cette proportion a peu à peu baissé. C'est-à-dire qu'effectivement, le confinement a été de moins en moins respecté au fil de semaines, avec là aussi des inflexions selon les profils individuels et les régions.
Bien sûr, j'allais dire heureusement, ce confinement a eu lieu à l'heure des réseaux, du téléphone, d'Internet, donc quand même qui ont permis de maintenir des relations avec les amis, avec les enfants, d'une manière là aussi inégale ou pas ?
Ah oui, alors, les liens sociaux, ils peuvent bien sûr être maintenus effectivement à domicile avec le téléphone et les médias sociaux. Alors effectivement, ces usages se sont beaucoup intensifiés pendant le premier confinement. Surtout d'ailleurs parmi les adultes qui vivaient dans un logement surpeuplé. C'est-à-dire que, vivre dans un logement surpeuplé, avoir un sentiment de promiscuité et à la fois d'isolement, ça pouvait aussi trouver un échappatoire dans le téléphone. Mais ces usages sont quand même restés conditionnés par de fortes inégalités liées à l'âge, hein, puisque ce sont surtout les 18-35 ans qui ont eu recours à ce mode de sociabilité, et beaucoup moins les personnes âgées qui, en moyenne, maîtrisent quand même nettement moins bien les outils de communication contemporains.
Ils n'ont pas un petit peu appris pendant ce confinement, justement, les personnes un peu plus âgées, notamment les grands-parents, pour avoir des contacts avec les enfants et les petits-enfants ?
Certains ont pu apprendre, mais c'est pas non plus un bon contexte pour.
Bien sûr.
Pas forcément facile d'apprendre quand on est isolé, mais effectivement, il y a eu des apprentissages.
Alors, vous avez aussi étudié, bien sûr, ce que ces bouleversements que nous avons vécu ont eu comme impact sur notre santé physique et mentale. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Bientôt 5 ans que nous sommes restés confinés chez nous de longues semaines, un confinement qui a bouleversé nos journées, nos relations sociales et familiales, avec quelles conséquences sur notre santé? On en parle avec Patrick Perretti-Vatel, qui est sociologue du risque et de la santé à l'INSERM, auteur de 8 clos avec un virus, comment les Français ont vécu le premier confinement aux presses universitaires du Septentrion, une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, à la technique Nicolas Bonnet, à la vidéo Ruben Carmazine. On commence avec la santé physique. Donc, on le disait, il y avait une heure de permission pour sortir par jour. Est-ce que du coup, ils ont profité de cela pour aller faire un petit peu de sport ? Est-ce qu'ils ont fait un peu plus de séances de sport par internet, avec des connexions internet chez eux ? Ou est-ce qu'ils sont restés plus sédentaires devant la télé, notamment à grignoter ?
Alors, là encore, il y a eu une forte disparité. Donc, si on parle en moyenne, alors. Les gens qui ne faisaient pas de sport avant ne se sont pas mis au sport pendant le premier confinement. Et par contre, ceux qui faisaient du sport, généralement, on en fait moins. Donc en gros, la moitié des Français ont fait du sport pendant le premier confinement. Le plus souvent, c'était marcher ou courir. Mais globalement, ils ont diminué leur pratique sportive pendant cette période. Ouais. Et par contre, ils ont beaucoup augmenté le temps passé devant les écrans.
D'accord. On sait que, évidemment, les hôpitaux étaient totalement saturés et réservés aux patients atteints de Covid. De ce fait, les patients qui avaient des maladies chroniques, que ce soit un diabète ou même des cancers, ont ralenti leur suivi. Il y a eu, et ça dans le domaine de la cancérologie, ça a été vraiment noté, des opérations qui ont dû être reportées. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si ça a eu des conséquences, s'il y a eu des pertes de chance ou pas du tout ?
Alors, effectivement, le premier confinement, il y a eu un fort impact sur les consultations médicales avec aussi donc des déprogrammations d'interventions chirurgicales massives. Il y a aussi une forte perturbation du suivi des patients atteints d'une maladie chronique. On a aussi beaucoup d'adultes qui, d'eux-mêmes, ont renoncé à des soins, soit parce qu'ils ne voulaient pas s'exposer au virus en sortant chez eux et en allant dans un lieu de soins, soit parce qu'ils se sentaient un petit peu illégitimes. À un moment où le système de soins était saturé par l'épidémie, eux ne voulaient pas le sursaturer encore avec leurs problèmes. On parle des programmations, mais on sait aussi que, par exemple, pour les cancers, un point qui est très important pour qu'un cancer soit bien pris en charge, c'est qu'il soit pris en charge précocement. Donc, le recours doit être le plus rapide possible. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a eu une perturbation du suivi des malades chroniques, mais il y a aussi eu des cancers qui ont été détectés plus tard. Alors, parmi les chercheurs, effectivement, il y a un consensus pour estimer qu'il y a eu beaucoup de pertes de chance pendant cette période. Par contre, c'est pas facile, ça reste encore très difficile à estimer précisément. Parce que là aussi, en fait, il faut du temps pour prendre aussi en compte le fait qu'il y a aussi un certain nombre de malades chroniques qui sont morts pendant pendant l'épidémie.
On pouvait s'attendre à ce que la menace du virus, les règles de distanciation sociale, les gestes barrières, le port du masque, notamment pour les enfants, et puis le confinement, allaient impacter la santé mentale des Français. L'enquête, effectivement, est très pertinente sur ce sujet. Déjà, en parlant des troubles du sommeil, qui sont, on le sait, très liés à l'anxiété. Vous avez des chiffres sur ces troubles du sommeil durant le confinement ?
Oui, alors, c'était pas forcément... Alors, c'était facile d'estimer, effectivement, les problèmes de sommeil ou les problèmes de santé mentale pendant le confinement, mais c'était pas forcément facile d'estimer l'impact du confinement lui-même parce qu'on disposait pas toujours de données de comparaison récentes. Mmh. C'est pas comme s'il y avait eu une grande enquête sur le sommeil et la santé mentale...
Juste avant, oui.
En décembre 2019. Mmh. Pour le sommeil, les données de référence disponibles dataient de 2017. Mmh. Cela étant, les problèmes de sommeil ont quand même connu une très forte hausse pendant cette période. C'était assez facile à voir. Effectivement, après deux semaines de confinement, on avait à peu près 3 Français sur 4 qui rapportaient des difficultés à dormir, alors que c'était moins de la moitié en 2017. Et surtout, d'ordinaire, ces difficultés, elles ont plutôt tendance à augmenter un petit peu avec l'âge, alors que pendant le confinement, c'était surtout les 18-25 ans qui étaient les plus touchés par ces difficultés de sommeil. Et on avait encore les 3/4 d'entre eux, les 3/4 des 18-25 ans qui déclaraient des problèmes de sommeil la veille du déconfinement. Mais c'est intéressant aussi que effectivement, comme vous le disiez, les troubles de sommeil sont souvent liés à l'anxiété, mais c'était pas les mêmes causes d'anxiété. C'est-à-dire que les 18-25 ans avaient plutôt des anxiétés qui étaient liées aux difficultés du confinement et à la perte de lien social, effectivement, ou au fait de devoir revivre chez leurs parents alors qu'ils avaient décohabité. Alors que les problèmes de sommeil chez les personnes plus âgées étaient plutôt liés à la crainte du virus et pas aux conséquences du confinement.
Qu'est-ce qu'on sait de la détresse psychologique ? Est-ce qu'on imagine qu'elle a augmenté ? Et est-ce que là aussi, il y a une différence sociale notable ?
Alors effectivement, la veille du déconfinement, début mai, on avait 1 Français sur 10 qui présentait des symptômes dépressifs sévères. Alors c'est quand même, je dis bien sévère, donc c'est beaucoup, 1 Français sur 10, parce que pour le coup, on en avait aussi beaucoup plus qui avaient des symptômes plus légers. Et on avait aussi 1 Français sur 10, la veille du déconfinement, qui présentait des symptômes anxieux sévères. Donc on avait à la fois des symptômes anxieux et dépressifs sévères. On a aussi mesuré la détresse psychologique qui a beaucoup augmenté pendant cette période. Et là encore, cette hausse a été particulièrement forte parmi les jeunes hommes. Mmh. Alors que c'est plutôt quelque chose qu'on augmente chez les personnes plus âgées. Et cette détresse était effectivement plus fréquente parmi les ouvriers et les employés, au sein des ménages à revenus modestes ou confrontés à des difficultés financières, et également parmi les adultes confinés dans un logement surpeuplé.
Et malgré tout, le fait d'être confiné, est-ce que les personnes exprimaient le fait que c'était quand même rassurant puisqu'on avait moins de risques d'être infecté, ou ça a été plus un poids qu'autre chose ?
Alors en fait, c'est un petit peu paradoxal parce que les gens quand même ont globalement bien accepté le confinement et l'ont supporté. Ils étaient favorables au confinement, même si c'était très dur pour eux. Alors, en l'occurrence, les gens étaient enfermés chez eux, mais par contre, ils étaient connectés en permanence aux médias qui traitaient en boucle de l'épidémie. Et le traitement de l'information à l'époque était très anxiogène. Je ne parle même pas des interventions du DGS tous les soirs
qui égrenaient des nombres de morts.
Et d'ailleurs, plus les gens regardaient ou écoutaient les médias, plus ils avaient du mal à dormir et plus ils présentaient des symptômes anxieux et dépressifs. Et donc, on avait d'ailleurs certains qui disaient, j'ai arrêté la télé, je peux plus. Ils avaient des comportements de fuite des médias au bout d'un moment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a intitulé l'ouvrage « Huit clos avec un virus », parce qu'en fait, les gens, ils étaient cloîtrés chez eux, mais ils n'étaient pas tout seuls, parce que même si la plupart n'étaient pas infectés, le virus était présent, parce qu'il était vraiment omnimédiatique à l'époque.
Alors, il y a des personnes qui ont été à part dans ce confinement. Ce sont les personnes âgées dépendantes qui vivaient en EHPAD. Écoutez le témoignage d'Evelyne qui parle de ce que sa mère a ainsi vécu. C'est au micro de France Inter.
Depuis début mars, notre mère est confinée dans sa chambre. Elle est isolée pour les repas qu'elle prend dans sa chambre. Elle a le droit depuis quelques jours seulement à des petites promenades autour de la résidence. Elle est privée des animations habituelles, cognitives, de divertissement. Elle est privée de kiné. Elle est privée des services du coiffeur, ce qui fait que ses cheveux sont longs. Elle ne se maquille plus. Elle refuse de se regarder dans une glace tellement elle se dégoûte. Hein. Elle pleure chaque fois qu'un personnel de la résidence lui dépose le linge que je lui apporte hein, accompagnée d'une petite fleur ou d'un petit mot. Et du coup, elle dort plus, sa mémoire faiblit, elle s'affaiblit physiquement parce qu'elle a peur de se déplacer toute seule. Et en fait, elle souhaite qu'une chose, c'est revoir au moins quelques instants ses filles, nous-mêmes et puis ses enfants. Et en fait, elle ne veut même plus écouter la radio ni regarder la télévision parce qu'elle me dit que ça lui renvoie avec vraiment beaucoup de violence tout ce dont elle est privée parce qu'elle attendait vraiment beaucoup de choses sur un allègement probable dans le cadre de la deuxième phase de déconfinement. Ouais. Quoi. Et elle a vraiment peur de mourir sans avoir revu sa famille ni fêté son anniversaire ou la fête des mères.
Vous avez pu enquêter sur ces personnes confinées donc dans des EHPAD par le biais soit des familles, soit des soignants?
Nous, on avait quelques personnes dans les EHPAD qui répondaient aux enquêtes, mais c'est quand même une situation très particulière qu'on n'a pas eu le temps d'interroger. D'ailleurs, ce témoignage, il est assez instructif. On voit effectivement qu'il y a une espèce de cercle vicieux et de cumul des difficultés qui fait que, bah, du coup, on s'enfonce dans des problèmes, y compris de santé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que rappelle cet extrait, c'est qu'il y avait aussi des fortes incertitudes sur combien de temps ça va durer. Et avec effectivement des gens qui ont vécu comme un trauma l'annonce du prolongement du confinement. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y avait ce qu'on comprend aussi avec cet extrait, c'est qu'il y a eu vraiment très vite une volonté désespérée d'un retour à la normale. Et d'ailleurs, un an plus tard, en fait, la principale cause qui incitait les gens à accepter des vaccins qui, par ailleurs, suscitaient pas mal de doutes, c'était justement la volonté de revenir à la normale, avec c'était le seul moyen de retrouver sa vie d'avant et de pouvoir effectivement revoir ses proches.
On a beaucoup dit qu'il y aurait un avant et un après crise du Covid, que notre relation à la vie, au bonheur, à notre santé allait être très différente. Est-ce que finalement ça se vérifie avec le temps qui passe? Est-ce que les Français font plus attention à leur santé? Il y a une étude de l'INCa, l'Institut National du Cancer, qui dit que 76% des Français déclarent qu'ils feront plus attention à leur santé à la suite de la crise du Covid-19. Est-ce que tout ça se vérifie? Est-ce que notre relation à notre santé, à notre vie, à notre façon de vivre est différente?
Alors, là encore, je pense qu'il y a une grande disparité des réactions individuelles qui peuvent être suscitées par la pandémie. Je ne suis pas convaincu que... si bien que l'INCa ait saisi cette occasion pour essayer d'inciter les gens à faire plus attention à leur santé et à adopter des gestes préventifs, mais il y a quand même de fortes chances que ce sentiment-là soit fugace et se résorbe. De façon générale, ce genre d'événement, en fait, qui fragilise, qui précarise beaucoup notre quotidien, ça a plutôt tendance à réduire notre horizon temporel, donc ça rend plus difficile la projection dans le futur, et donc c'est pas très bon pour l'adoption de bons comportements de santé.
Est-ce que des enquêtes similaires ont été menées dans d'autres pays? Est-ce que le vécu semble identique dans ce cas-là ou pas?
Alors, effectivement, c'est un des avantages de cette crise, c'est qu'il y a eu énormément de recherches qui ont été menées dans des contextes très variés. Puisque d'un pays à l'autre, les confinements ont été plus ou moins longs et plus ou moins stricts. Alors les résultats convergent pour souligner le très fort impact des confinements sur l'inégalité sociale et sur la santé mentale, quel que soit le pays considéré. Et on a aussi, d'ailleurs, quel que soit le pays considéré aussi, pu observer effectivement les difficultés qui étaient liées au déconfinement, puisque les gens ont eu très peur pendant le confinement, et quand on leur expliquait en fait qu'on allait les déconfiner, en France comme ailleurs, ils n'étaient pas forcément d'accord. Et dans nos enquêtes, la veille du déconfinement, il y avait la moitié des gens qui disaient « j'aurais préféré que le confinement soit prolongé encore au-delà du 11 mai ». Et on en avait même les trois quarts qui disaient « moi, de toute façon, je vais continuer à me confiner encore quelques semaines ».
Merci beaucoup Patrick Peretti-Vatel pour ces informations passionnantes et votre livre tout aussi passionnant, Huis clos avec un virus, comment les Français ont vécu le premier confinement chez Septentrion. Merci infiniment.